La guerre commerciale est déjà déclarée et elle ne fera que des perdants, disait hier dans le journal La Croix le ministre de l'économie Bruno Le Maire au sujet des mesures protectionnistes de Donald Trump. Si ces mesures injustifiables et injustifiées ne cessent pas, disait-il encore, l'Europe ripostera. Une Europe sur la défensive à la veille de la rencontre demain à Washington entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker, entre autres pour désamorcer ce conflit commercial qui les oppose sur l'aluminium et l'acier. Bonjour Pierre Grosset.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur de L'histoire du monde se fait en Asie aux éditions Odile Jacob paru l'année dernière, mais aussi précédemment de Traiter avec le diable, les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle. Alors si vous aviez écrit ce livre après l'élection de Donald Trump, est-ce que vous l'auriez mis, non pas dans la catégorie de diable, puisque votre propos n'est pas de désigner les méchants et les gentils, mais dans la catégorie que le reste du monde considère comme tel?
Peut-être pas comme un diable, mais en tout cas comme quelqu'un avec qui il est extrêmement difficile de négocier, qui a ses techniques propres et qui sont pas du tout traditionnelles dans la diplomatie, qui est un lieu de négociation relativement feutré. Et sur les questions commerciales, on sait que par exemple, pendant toutes les années 90 et le début des années 2000, les relations entre l'Europe et les États-Unis étaient excellentes et c'était finalement ce qu'on appelle le US Trade Representative américain et le commissaire au commerce européen qui faisait le là dans les négociations commerciales de façon pas très transparente, mais on avait l'impression que c'était quand même les Américains et les Européens qui avaient de concert, tout en étant un peu concurrents évidemment, la haute main sur le commerce mondial. Et il y avait une expression qui était d'ailleurs issue de la guerre froide qui disait que voilà, les deux éléphants se battent ou fassent l'amour, l'herbe est écrasée, c'est-à-dire que finalement les petits pays étaient toujours finalement les perdants des bonnes relations ou de la concurrence entre Américains et Européens.
On en a utilisé des expressions, des métaphores pour parler de l'Europe et des États-Unis. Vénus et Mars disait ça
Robert,
c'était Robert Kagan qui depuis a rallié l'équipe d'Hillary Clinton. Vénus c'est la séduction, Mars la virilité. Voilà, ça vous paraît une expression encore adaptée parce qu'il le disait au début des années 2000.
Alors c'est une expression qui effectivement a eu beaucoup de succès liée à la guerre en Irak où finalement on parlait de fossé transatlantique avec d'un côté les Américains qui avaient gardé les valeurs viriles, ce qui prouvait la guerre en Irak, et de l'autre côté des Européens qui étaient beaucoup plus entre guillemets féminins. Et la réponse d'ailleurs qui était venue d'un spécialiste indien dans une grande revue qui s'appelle Foreign Policy, c'était de dire que l'avantage des Européens, c'est qu'ils étaient métrosexuels, c'est qu'ils avaient finalement toute la gamme de la puissance, toute la gamme de la capacité à influer à la fois féminin et masculin.
Mais dites-moi, Vénus et Mars ont eu une liaison, ils ont même eu des enfants, ils ont eu Harmonie et puis deux petits jumeaux, Phobos la crainte et Deimos la terreur. Alors je ne sais pas si Robert Kagan incluait les enfants et trouvait que...
J'en doute.
Bon, alors si vous étiez Jean-Claude Juncker, allez, on va la poser comme ça, Pierre Grosseur, comment est-ce que vous aborderiez cette rencontre au sommet? Comment est-ce qu'on négocie avec Trump? Est-ce qu'il faut le caresser dans le sens de la mèche comme l'avait fait Emmanuel Macron en le recevant à Paris? Les résultats sont pas très probants. Est-ce qu'il faut lui faire le coup de la discussion virile? Comment vous vous y prendriez?
Je ne pense pas qu'il fera la discussion virile, d'abord parce que ça n'a pas tout à fait réussi, et puis ce n'est pas le genre de M. Juncker, et d'une façon générale, ce n'est pas tellement le genre de l'Union européenne de fonctionner de cette manière-là. Je pense que M. Juncker essayera, comme l'ont fait la plupart des présidents des alliés des États-Unis, c'est d'essayer d'expliquer que finalement ce type de guerre de commerce ne sert pas à grand-chose, que ce n'est pas bon, évidemment pour le commerce mondial, que c'est absurde de regarder les déficits commerciaux, c'est un indice qui est utilisé depuis très très longtemps mais qui ne veut pas dire grand chose à partir du moment où vous avez une production qui est mondialisée. Quand vous achetez une Ford aux États-Unis, la moitié à peu près de la valeur de la Ford est produite ailleurs dans le monde. Donc c'est absurde de rentrer dans des guerres commerciales de ce type-là et d'avoir le regard fixé sur les déficits commerciaux. L'autre élément de pédagogie, c'est que pendant très très longtemps, en tout cas toutes les années 90 et 2000, qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est que finalement le libre-échange était très très bon pour les consommateurs. consommateurs. Parce que finalement, s'il n'y a pas de tarifs douaniers, les prix des produits sont relativement faibles. Et finalement, dans l'économie capitaliste américaine, c'était assez intéressant parce que ça permettait de maintenir les salaires assez bas. Et effectivement, quand on regarde l'évolution des salaires aux États-Unis, je ne parle pas évidemment des très grandes fortunes où là, c'est, on sait que ça a explosé, mais les salaires sont restés très 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 modestes pendant toute cette période-là. Et donc, si on rentre dans une guerre commerciale qui a relocalisation d'un certain nombre de productions aux États-Unis, les salaires vont augmenter et donc, ça va être compliqué de maintenir les salaires relativement bas parce que le coût de la vie va augmenter.
Bruno Le Maire a sonné le branle-bas de combat hier en disant que tout le monde devait s'y mettre, Commission européenne, États membres, entreprises influentes pour faire bouger la politique américaine, donc mobiliser toutes les énergies pour convaincre le président américain.
Alors, je pense que finalement, une des meilleures manières de le faire, il faudrait savoir ce que fait notre ambassadeur à Washington, mais j'imagine que c'est une de ses fonctions, c'est aussi d'essayer de convaincre un certain nombre d'entreprises américaines, de très grosses entreprises américaines, de monter au créneau, parce que, en fait, ce nouveau protectionnisme américain de Monsieur Trump n'est pas une demande des entreprises. Les entreprises ne voient pas d'intérêt à voir cette augmentation pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles ont une production globalisée et un certain nombre de gens font fabriquer en Chine et importent depuis la Chine, et c'est donc compté comme des importations, alors que ce sont des produits qui, finalement, amènent des bénéfices aux Américains. Donc, l'idée, c'est plutôt d'essayer de rallier une partie de l'opinion américaine, de faire comprendre aussi que politiquement, ça posera des problèmes, parce que ça soit les Chinois, que ça soit les Européens, dans les rétorsions commerciales, on va viser, bien entendu, les productions qui sont faites dans des États favorables à Trump. Parce qu'évidemment, ça va heurter les électeurs de Trump, et donc on peut imaginer qu'au midterms, donc les élections qui arrivent au mois de novembre, ça pourrait poser des problèmes aux candidats républicains. Donc c'est toute cette, à la fois cette pédagogie auprès de Trump, et d'autre part d'essayer de faire que aux États-Unis même, il y ait des gens qui lèvent le bouclier en disant « Monsieur Trump, vous faites erreur », que, à mon avis, on espère, en tout cas Monsieur le maire espère.
Alors pour continuer à appréhender cette rencontre de demain d'un point de vue diplomatique, parce que par ailleurs sur le protectionnisme, on pourrait faire un débat économique sur l'intérêt ou pas du protectionnisme, et c'est moins le propos aujourd'hui, mais d'un point de vue diplomatique, donc Jean-Claude Juncker arrive là-bas sans considérer pour l'instant Donald Trump comme un ennemi, comme Donald Trump désigne l'Union européenne avec ce terme de fou, F-O-E, dont on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire en fait.
Alors, ça peut être évidemment considéré comme ennemi, mais c'est pas l'ennemi absolu. Il faut
c'est
bien voir que dans la vision traditionnelle du mercantilisme, on a l'impression, et d'ailleurs qui est apparu aussi au tout début des années 90, puisque on avait l'impression que c'était la fin de la géopolitique, c'est-à-dire des rivalités entre grandes puissances, et donc on a commencé à parler de rivalités géoéconomiques avec des combats pour les pipelines, pour le pétrole, pour évidemment là ce qu'on appelle la compétitivité entre les différents États. Ce qui est évidemment quelque chose d'un peu étonnant, puisque dans une économie mondialisée, on sait très bien, c'est des espaces qui ne sont pas forcément les États, ça peut être des régions, ça peut être des villes, etc., etc., qui sont mis en concurrence. Donc là, c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'on sort d'un sommet de l'OTAN, où il y a eu les demandes traditionnelles, finalement, de la part des Américains, de partage du fardeau. Ça, c'est pas une rupture majeure avec Trump. D'abord, il le demande, lui, il en parlait déjà à la fin des années 80, mais Monsieur Obama aussi était assez agacé du fait que les Européens dépensaient très très peu pour la défense et que finalement le fardeau incombait essentiellement aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui est encore plus valable avec le Japon qui, je rappelle, n'a jamais dépassé 1% de son PNB dans les dépenses militaires. Donc là, on est dans quelque chose de relativement traditionnel. En revanche, effectivement, dans les négociations de type commercial, mais à mon avis, M. Juncker ne parlera pas que de ça, mais en tout cas pour les négociations commerciales, on a des éléments de concurrence, mais il y a des éléments de complémentarité. Encore une fois, le discours fondamental du libéralisme, c'est le win-win, c'est-à-dire que finalement, tout le monde profite de cette ouverture commerciale. Mais le win-win n'est pas tellement dans l'esprit de M. Trump, où il a d'abord l'habitude, un, d'avoir des bénéfices à court terme. Ça, c'est la première des choses. C'est ça qui l'intéresse. Et ça, c'est lié à un capitalisme américain qui est quand même très fondé sur le court terme. La deuxième élément, c'est qu'on utilise plutôt la force, et en tout cas de tordre le bras à l'adversaire. Et la troisième chose, que finalement, on n'a pas de partenaire durable, mais uniquement, finalement, des concurrents qu'on peut appeler des ennemis, puisque, évidemment, dans un jeu à somme nulle, eh bien, c'est celui qui l'emporte, qui ramasse toute la mise.
L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. Ça, c'était des proches que vous citez dans votre livre. Et vous écrivez aussi que la figure de l'ennemi, c'est un construit, même lorsque l'hostilité de l'autre est réelle. Donc, de toute façon, il faut faire fi de ça.
Alors, oui, le problème, c'est que je pense que l'idée que les Américains sont des concurrents qui essayent de l'emporter économiquement sur l'Europe, c'est quelque chose qui est relativement ancien. C'est-à-dire que les États-Unis ont poussé à la construction européenne au tout début de son histoire. Un, parce que ça pouvait créer un marché intéressant pour eux, et deux, parce qu'ils avaient l'impression que cette construction européenne évitait les tensions entre États qui les avaient forcés à intervenir dans deux guerres mondiales en 1917 et en 1941. Et donc, si on avait à la fois un pôle dynamique qui ne cède pas au communisme et qui fasse du commerce avec les États-Unis, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais ça n'a pas empêché que sur tout un tas de dossiers, il y a eu concurrence. L'affaire, par exemple, sur l'aéronautique entre Airbus et Boeing, on a l'impression d'en avoir entendu parler depuis très très longtemps. Il y a eu des combats aussi sur un certain nombre de normes, par exemple les normes de télévision. Ce sont des choses qui sont relativement anciennes. La seule chose, c'est que les États-Unis sont un État alors que l'Union européenne n'en est pas un. Et en gros, l'Union européenne a plus été, notamment sous impulsion britannique, un espace dans lequel la concurrence devait être, comme on dit, libre et non faussée, et que la vision française de l'Union européenne, c'est-à-dire d'avoir des champions européens, comme la France auparavant avait des champions nationaux dans le mode industriel, c'est quelque chose qui n'est pas rentré dans les mœurs, et on n'a pas vraiment de champions européens contre des champions américains. D'ailleurs, du côté de Boeing et d'Airbus, on sait très bien qu'un certain nombre de composants viennent là aussi de l'autre partie de l'Atlantique.
Pierre Grosseur, qu'est-ce que Donald Trump aujourd'hui connaît de l'Europe? Qu'est-ce que révèle par exemple le discours qu'il avait prononcé en Pologne il y a un an sur sa connaissance de ce continent?
Ben c'est une vraie interrogation. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part il y a l'Europe et d'autre part l'Union européenne. On est dans un temps, et ça fait maintenant 20-30 ans qu'on a des dirigeants américains, pas forcément le président, mais là dans ce cas-là c'est le président, qui n'ont pas les liens affectifs avec l'Europe qu'avaient la plupart des dirigeants américains des années 40, 50, 60, parce qu'ils avaient fait le tour d'Europe dans leur jeunesse, parce que une partie de leur famille venait d'Europe. Alors, M. Trump aussi, mais enfin, tout ça paraît quand même assez loin pour lui. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, dans une partie de l'élite américaine aujourd'hui, cette connexion sentimentale avec l'Europe. Et ça, je crois que ça change beaucoup de choses dans nos relations. Et la deuxième chose, c'est les relations avec l'Union européenne elle-même et la connaissance de l'Union européenne. Il faut bien avouer que c'est pas très très facile de comprendre qui dirige en Union européenne. Et donc là, il y a Monsieur Juncker qui vient, mais il y a eu Monsieur Donald Tusk, qui a le problème de Madame Mogherini, qui normalement est, si vous voulez, la figure de la politique extérieure européenne. Et je ne suis pas sûr que ces subtilités soient totalement perçues, non pas par une grande partie de l'administration américaine qui travaille, mais par Trump.
Que font en ce sens les conseillers Donald Trump? Parce que certains quand même lui disent, on peut pas griller entre guillemets mais la carte européenne, est-ce qu'il y a dans l'entourage de Donald Trump des personnes qui connaissent un peu mieux ces questions-là?
Ben pas trop, on a plutôt l'impression que autour de lui, il y a des gens qui veulent casser l'Union européenne. Et on a vu dans son discours sur le Brexit quand même des choses assez assez étonnantes. L'idée de séparer plus ou moins une ancienne Europe, en gros l'Europe de l'Ouest, la nouvelle Europe plus alignée sur Washington, c'est quelque chose qui date de Monsieur Kagan, que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire en gros du début des années 2000. Et donc, si vous voulez, pour essayer d'affaiblir un concurrent, il faut essayer de le diviser. Et ce qui est quand même une des grandes inquiétudes en Europe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que à la fois du côté américain, à la fois du côté russe et à la fois du côté chinois, il y a la tentation non pas de faire imploser l'Union européenne, mais en tout cas de fomenter la discorde à l'intérieur des pays européens en misant sur tel ou tel qui aurait des intérêts à avoir des bonnes relations qui avec les États-Unis, qui avec la Russie et qui avec la Chine.
Bon, donc Jean-Claude Juncker et son équipe arrivent en terrain quand même sensible, miné, un peu flottant. Une des façons de négocier, c'est peut-être de commencer par mettre en avant les points d'accord plutôt que de discorde. Peut-être que Donald Trump ne le sait pas, mais il y a des points d'accord entre l'Union européenne et les États-Unis aujourd'hui.
Alors, le gros problème quand on négocie avec Trump, surtout en ce moment, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que ce type d'argument, si vous voulez, peut rentrer, puisque dire qu'il y a des points d'accord, ça veut dire qu'il y a du win-win, etc., etc., dont j'ai parlé tout à l'heure. Et finalement, le gros problème, c'est que Trump, aujourd'hui, semble essentiellement concentré sur sa politique intérieure. Avec évidemment toutes les affaires qui n'en finissent plus autour de lui, de l'ingérence russe, etc., etc. Et donc, je ne sais absolument pas s'il va être très concentré sur ce type de rendez-vous, s'il va avoir l'impression qu'il peut faire autre chose que de faire une grande déclaration après, qui montre que, encore une fois, puisque c'est ce qu'on entend sur Fox News tous les jours, c'est le meilleur négociateur du monde, que l'Amérique ne s'est jamais aussi bien portée depuis qu'il est là. Donc, il va sans doute dire qu'il a eu un tremendous meeting, un meeting extraordinaire avec Juncker, mais ça ne va pas empêcher qu'il va essayer de capitaliser sur la scène intérieure assez rapidement.
Et comme il regarde la chaîne Fox News toute la journée, il sera convaincu d'avoir été parfait. Bah
absolument, je pense que ça se renforce.
Voilà, mais alors Donald Trump s'est quand même beaucoup vanté d'être un bon négociateur, notamment dans son livre L'Art du Deal dans les années 80, mais il n'a pas obtenu grand-chose non plus, que ce soit en politique intérieure, la réforme fiscale s'est faite sans qu'il ait son mot à dire, il n'a jamais vraiment changé de tactique non plus en politique international. Il commence par faire les gros bras, puis à la fin, il accepte une solution pragmatique en clamant qu'il a remporté une énorme victoire. Donc peut-être que c'est là que doivent jouer les Européens.
Oui, mais en même temps, on est beaucoup en train de discuter depuis 2-3 jours sur la question nord-coréenne, où il a dit qu'il avait là aussi remporté une victoire extraordinaire, que la dénucléarisation allait se faire en claquant dans les doigts, etc., etc., et à peu près tout le monde s'aperçoit qu'aujourd'hui les choses sont très différentes. Donc, si vous voulez, déclarer à court terme une victoire, c'est toujours compliqué. De toute façon, il a une capacité assez exceptionnelle quand il y a un écart entre la réalité et le discours, de dire que de toute façon, c'est pas sa faute. Et toute proportion gardée, ça fait un peu penser à ce qui se passait dans l'Union soviétique des années 30, où il y avait tout un discours sur l'avenir radieux, une réalité qui évidemment était beaucoup moins radieuse. Alors évidemment, en Union soviétique, on pratiquait les purges et la terreur contre tous les gens qui étaient considérés comme les responsables de cet écart entre la réalité et la fiction, et en tout cas le discours. Je pense qu'on n'en est pas encore là aux États-Unis, mais en tout cas, évidemment, il fait la liste de tous les gens qui n'ont pas tenu leur part. Là, évidemment, la responsabilité des démocrates, la responsabilité des médias, des fake news médias, comme il les appelle, etc. Donc, de toute façon, il retombera toujours sur ses jambes.
Autre sujet qui sera abordé lors de ce sommet, de cette rencontre en tout cas, c'est la question iranienne, le nucléaire iranien, non pas tant en termes politiques, diplomatiques que économiques, puisque Donald Trump va taxer les entreprises européennes encore présentes en Iran pour les punir d'être là, puisque lui a choisi de se désengager sur l'accord nucléaire. Là encore, est-ce que Paris, Berlin, Londres, qui s'y sont mis à trois pour écrire une lettre, entre guillemets, pour écrire une lettre à Donald Trump, peuvent le convaincre de discuter, quoi?
Alors, la question de l'extraterritorialité, donc du droit américain et la capacité finalement à poser des très gros problèmes aux entreprises européennes qui commerceraient avec des ennemis, là des vrais ennemis des États-Unis, ça avait été déjà sur Cuba il y a maintenant pratiquement 20 ans, eh bien je crois que c'est quelque chose qui va continuer et on voit aujourd'hui plutôt les entreprises françaises se retirer d'Iran et dire que de toute façon elles ne voient pas comment l'Union européenne ou la France en tant qu'État peuvent contrer cette espèce de grosse machine juridique américaine, car je crois qu'une des grandes, un des grands éléments de la puissance américaine, c'est pas seulement les canons, les avions et le nucléaire, c'est aussi cette force juridique et judiciaire.
Alors, on ne peut pas comprendre les relations entre les États-Unis et l'Europe sans les considérer sur l'échiquier global avec cette question iranienne, la question nord-coréenne que vous avez évoquée, la Chine, qui est l'obsession de Donald Trump. C'est ce que nous ferons en deuxième partie. Vous restez avec nous, Pierre Grosseur.
Volontiers.
On vous retrouve après le journal.